Alors Rémi, bonsoir et bienvenue à la conférence organisée par le groupe d'études théosophiques en Tarentaise, dont le titre est « La mort, l'aventure posthume ». Maintenant, pour introduire la conférence, nous allons faire une courte lecture tirée du cahier théosophique 158, intitulé « La théosophie et le livre des morts tibétains ». Alors pour la théosophie, le retrait de la conscience vers sa source suit une sorte d'itinéraire balisé en passant du monde des sensations physiques, progressivement éteintes, aux visions psychiques, avec d'éventuelles rencontres imaginaires avec des amis, des parents, jusqu'à la communion avec le soi égo supérieur, où ce dernier manifeste quelque chose de son omniscience potentielle. C'est alors, pour l'homme personnel, confronté à son foyer d'individualité permanente, la revue panoramique de toute son existence, comme acteur et comme spectateur impartial, avec parfois un aperçu des incarnations précédentes et aussi une sorte de vision prospective du personnage qui émergera conformément au karma dans la prochaine vie terrestre. Ici, l'être s'est affranchi des contingences de son espace-temps usuel. Dans cette expérience transcendantale, où tout, du passé au futur, est saisi dans un présent immuable, l'homme retrouve ce qui est pour lui comme sa racine divine. Mais on ne saurait dire, comme le suggère le bardo Todol, qu'il bénéficie alors d'une authentique perception de l'Adi Buddha, c'est-à-dire la réalité ultime, impersonnelle de l'univers et des êtres. Dans le meilleur des cas, pour le mourant ordinaire, ce n'est encore qu'un pâle reflet de cette sorte de soleil primordial. Dans sa conscience personnelle, il ne saisit que ce qu'il peut de ce que lui en transmet le foyer de son ego transpersonnel divin. Voici la conférence.
Alors amis, eh bien, mourir n'est pas aussi simple qu'on peut le penser, que ce soit du point de vue du corps physique ou de la conscience. Déjà, du point de vue du corps physique, il y a encore une centaine d'années, lorsqu'un homme était déclaré mort, avec les critères de l'époque, eh bien, il n'était pas rare qu'il se réveille. Et en effet, tant que les organes vitaux n'ont pas subi de dommages vraiment irréversibles, et qu'il existe encore un lien entre le corps astral et le corps physique, eh bien, le réveil est possible. Et donc, maintenant, par contre, avec nos techniques de réanimation, on sait cela. Donc, ça ne se passe plus normalement. Et du point de vue de la conscience, eh bien, lorsque l'homme pousse son dernier souffle, et ce n'est en fait que le commencement du processus de la mort. Et en effet, quand l'homme quitte la scène du monde, il va se passer devant ses yeux la revue de toute la vie qui est en train de se terminer. Et donc, on appelle ça la revue panoramique, et ça se passe même en cas de mort violente. Alors, on va vous lire un court extrait d'une lettre d'un des maîtres de Madame Blavatsky qui a été écrite en 1883. Au dernier moment, la vie tout entière est reflétée dans notre mémoire. Elle émerge de tous les recoins oubliés, image après image, événement succédant à l'autre. Le cerveau mourant déloge les souvenirs avec une impulsion de la dernière énergie, et la mémoire restitue fidèlement chacune des impressions qui lui avaient été confiées pendant la période d'activité du cerveau. aucun homme ne meurt fou ou inconscient, comme l'affirment certains physiologistes. Même un individu en proie à la folie ou à une crise de délirium très mince a son instant de parfaite lucidité au moment de la mort, bien qu'il soit incapable de le faire savoir aux assistants. Souvent, l'homme peut paraître mort, pourtant, après la dernière pulsation, entre le dernier battement de son cœur et le moment où la dernière étincelle de chaleur animale quitte le corps, le cerveau pense et l'ego passe en revue, en quelques brèves secondes, l'intégralité de sa vie. Aussi, parlez tout bas, vous qui vous trouvez près du lit d'un mourant, en la présence solennelle de la mort. Parlez tout bas, de peur de troubler le cours naturel des pensées qui reviennent et d'empêcher l'activité intense du passé, projetant sa réflexion sur le voile du futur. Alors, on voit que ce texte, eh bien, rejoint en fait ce qu'ont raconté toutes les personnes qui ont fait des NDE, des expériences proches de la mort. Et toutes ces NDE ont été quand même relatées un siècle plus tard, par exemple dans le livre du docteur Moody, qui a été publié en 1975 seulement. Et d'après les maîtres de sagesse, eh bien, cette revue panoramique de toute la vie a lieu pour tout le monde. Dès que quelqu'un meurt, il y a cette revue panoramique. Alors, dans la vie, il est vrai que nous oublions beaucoup de choses, même des choses qui nous paraissaient importantes. Mais en fait, tout est consigné. Et le moindre petit détail insignifiant, eh bien, ne peut pas ne peut pas sortir de la mémoire de l'âme, parce que justement pour l'âme, il ne s'agit pas de mémoire, mais il s'agit d'une réalité toujours présente. Et ce n'est donc pas la mémoire. Et cette réalité, elle est sur un plan subjectif, qui est un plan qui est au-delà de nos conceptions de l'espace et du temps. Alors, il faut noter aussi que ce que la plupart des gens appellent l'âme, nous l'appelons l'ego qui se réincarne, ou l'ego supérieur, ego donc avec un E majuscule. Hein. Alors, cette revue, eh bien, de la vie est due simplement au fait que pendant quelques secondes, ces deux mémoires fusionnent. Ou pour être plus précis, les deux états de conscience, l'inférieur et le supérieur, c'est-à-dire le petit ego personnel et l'ego individuel et omniscient, fusionnent et forment une unité. Donc, le mourant, sur ce plan, eh bien, n'a ni avenir ni passé, il est uniquement dans le présent. Alors, cette revue panoramique, eh bien, qui se passe donc au seuil de la mort, se caractérise par le fait qu'il n'y a pas plus d'émotion, il n'y a pas de culpabilité, il n'y a plus de crainte non plus. C'est une vision qui est totalement impartiale et sans jugement. Et en l'espace de quelques secondes, avec la lumière de l'ego supérieur, eh bien, l'être va comprendre tous les enchaînements des causes et des effets qui l'ont amené à vivre la vie qu'il est en train de vivre, qu'il a vécue. Et donc, il cesse alors... en l'espace de secondes, il voit tout ça, et puis il se voit également tel qu'il est, et pas tel qu'il croyait qu'il était. Il cesse d'être dupe de ses propres illusions. Là, il est dépouillé de tout, il est tel qu'il est. Et il ressent aussi, eh bien, toutes les joies ou toutes les souffrances que ses actions ont pu provoquer chez les autres. Il ressent cela aussi. Donc, il voit sa vie en spectateur et il comprend la justice, en fait, de ce que son karma a mis sur son parcours tout au long de sa vie. Et certaines personnes vont donc remonter aux causes qui ont été provoquées plusieurs incarnations avant et dont les effets sont arrivés à maturité dans cette vie. Donc il remonte à ça dans cette revue panoramique. Alors, beaucoup des rescapés de la mort qui ont fait cette revue panoramique et qui ont eu la chance de revenir à la vie, eh bien, ont changé radicalement d'optique après et disent qu'ils sont sur Terre, en fait, pour apprendre, pour comprendre et pour aimer. Et ça nous fait un peu penser au triple yoga qui est connaissance, amour et action aussi. Mais il faut savoir aussi qu'il y a des degrés différents dans ces personnes qui ont fait des NDE, parce que certains ont ramassé, ont rapporté seulement quelques images, alors que d'autres sont allés jusqu'à des expériences d'omniscience, et ça donc à la lumière de l'ego supérieur. Alors, passé cette limite, eh bien, personne n'est revenu pour nous donner un témoignage du reste de l'aventure. Mais par contre, nous avons cette description par tous ceux qui ont purifié et maîtrisé assez leurs instruments pour entrer consciemment dans les coulisses de la nature et surtout tous ces plans de la nature, comme par exemple les maîtres de sagesse qui sont des éveillés. Donc, quand l'homme meurt, eh bien, la vie le quitte et le corps physique, lui, est abandonné sur la terre où il va commencer sa décomposition. À ce moment-là, eh bien, quelles que soient les circonstances de la mort, quel que soit l'âge, quelle que soit la bonté ou la méchanceté de l'être, sa conscience va le quitter aussi rapidement que l'on souffle la flamme d'une bougie. Mais ça va durer juste le temps que tout se réorganise après ce choc, parce que c'est un choc, cette coupure avec le corps physique. Ensuite, la conscience, c'est une conscience, une demi-conscience, on dirait, qui va revenir peuplée de rêves un peu flous. Et l'être se trouve en fait là, dans une sphère astrale intermédiaire entre le plan terrestre et le plan céleste, qu'on appelle donc le Kamaloka. Et cette sphère nous fait penser aussi un peu au sommeil, où on quitte le plan d'éveil pour entrer, quand on s'endort, dans le plan astral, le domaine des rêves, et où ensuite on va aller sur le plan céleste, c'est-à-dire le plan du sommeil sans rêve, le sushupti, et ensuite on fait le chemin inverse avant de s'éveiller. Eh bien, ceux donc qui sont morts sont sur cette sphère, dans cette sphère astrale du Kamaloka. Kamaloka qui vient du sanskrit kama, qui veut dire désir, et loka, lieu. Donc c'est en fait une localité astrale, mais dans le sens relatif, parce que le Kamaloka n'a pas d'étendue et n'a pas de frontières, bien sûr. Mais c'est un plan qui existe, mais qui est au-delà de nos perceptions physiques, les perceptions de nos sens physiques. Et nos sens astraux ne sont pas encore, généralement, pas encore développés. Mais ce Kamaloka est l'endroit, eh bien, où vont tous les êtres qui ont vécu, y compris les animaux, pour attendre leur deuxième mort. Alors, pour les humains, cette deuxième mort, eh bien, va commencer quand la triade supérieure va se séparer de tous les principes inférieurs de l'être, de l'ancienne personnalité, et où elle pourra ensuite plonger dans l'état dévacanique, mais on verra ce moment du dévachan plus tard. Pour l'instant, le corps astral, donc qui contient toutes les énergies de la personnalité, de l'ancienne personnalité, est privé donc de son prolongement physique qu'il a laissé sur Terre, et il n'est plus d'aucune utilité en fait à l'ego supérieur. Donc l'ego supérieur va commencer à rejeter cette enveloppe astrale qu'on appelle la coque astrale. Et cette coque est vouée en fait à la décomposition dans un temps plus ou moins long. Mais heureusement, tout ne va pas être rejeté avec cette coque astrale, parce qu'il y a une partie de la personnalité qui mérite d'être sauvegardée. Alors, l'ego, eh bien, va entraîner un peu comme un aimant toutes les énergies là, qui sont dans ce corps astral, tout le côté de la personnalité, eh bien, qui est en harmonie en fait avec cet ego supérieur. Alors, ainsi, l'ego va réunir eh bien, tout le côté spirituel, tout le butin spirituel de la vie qui vient de s'écouler, c'est-à-dire le sens du beau, le sens du juste, l'amour, tout le côté noble de la personnalité de la personne décédée. Et cette opération est en fait une lutte eh bien, entre le côté terrestre et le côté spirituel de la personnalité. Parce qu'il y a d'énormes forces psychiques dans nos désirs, dans nos passions et dans notre attachement à la Terre. Et d'ailleurs, il y a les cas spéciaux de mort violente. Alors, les accidentés, les suicidés, les exécutions, les meurtres, tous ceux qui meurent en pleine force avec énormément de désirs inassouvis. Alors, ceux-là, eh bien, ne sont morts, en fait, qu'en apparence, parce qu'ils vont rester en Kavaloka, ils vont rester dans cette sphère astrale, jusqu'à ce que s'épuise toute cette réserve d'énergie, finalement, cette réserve de vitalité, qui les aurait amenés à un âge beaucoup plus avancé. Et, en effet, les principes de l'être, eh bien, ont une cohésion. Une cohésion qui a une limite, qui ont leur propre fin dans le temps. Et quand cette fin est naturelle, donc est atteinte, eh bien, les principes vont se séparer. Mais tant que cette fin n'est pas atteinte, les principes sont dans l'impossibilité de se séparer. Donc tous ceux qui meurent de mort violente, eh bien, les principes, finalement, doivent attendre que le véritable terme naturel de la vie soit atteint. Et cela, ça peut être un mois après ou ça peut être 60 ans après. Donc, il y en a qui restent assez longtemps dans le Kamaloka quand ils sont fauchés jeunes. Et il faut savoir aussi qu'en Kamaloka, eh bien, il y a des degrés différents pour les différentes coques astrales. Il y en a qui passent ce Kamaloka dans de terribles souffrances, mais pour la plus grande partie, eh bien, ça se passe dans un demi-sommeil peuplé de rêves flous. En fait, c'est chacun suivant la responsabilité morale de chaque personne. Mais par contre, ceux qui meurent la haine au cœur et plein de sentiments d'injustice et de vengeance, comme par exemple ceux qui sont exécutés légalement, eh bien ceux-là, dans le Kamaloka, ils vont ressasser sans cesse leurs crimes et leur vengeance. Et s'ils peuvent être en contact avec un être sensitif, que ce soit un médium ou n'importe qui d'autre, ils vont lui injecter dans le cerveau des idées de meurtre et, ou toute autre sorte de crime. Donc, on comprend pourquoi eh bien, la peine capitale devrait vraiment être abandonnée dans le monde entier. Parce que, en fait, en continuant cela, on permet peut-être à cet être eh bien, de continuer à tuer par personne interposée. Et quant au suicide, eh bien, s'il est condamné par toutes les religions, ce n'est pas un hasard. Alors, revenons quand même à notre homme qui meurt de mort naturelle, donc, qui n'est ni un ange, ni un monstre, et qui donc ne va pas vivre consciemment ce Kamaloka, car ce serait pour lui un cauchemar. Et si la personne avait des aspirations élevées, eh bien la séparation de ses principes va se faire assez rapidement, et la triade supérieure va pouvoir aller assez rapidement en Devachana. Si par contre, eh bien, c'était quelqu'un de très égoïste, de très matériel, une personne très grossière, la séparation des principes, donc les principes ont beaucoup plus de force, et cette séparation va être beaucoup plus longue, parce que l'ego aura plus de mal à se défaire de toute cette force inférieure. Alors, durant ce passage en Kamaloka, on a vu que la plus grande partie vivait cela dans un demi-sommeil peuplé de rêves. Mais c'est en fait une protection, parce que c'est vrai que ce monde du Kamaloka n'est pas tout repos, et parce qu'il y a énormément de forces qui s'opposent et qui sont en lutte. Donc c'est une protection. Et le Kamaloka, eh bien, pourrait être comparé au purgatoire des religions. Mais ce n'est pas un endroit où on purge une peine. C'est seulement l'endroit où l'ego, eh bien, se dépouille de toutes ses forces qui ne sont pas assez, qui ne sont pas de nature assez élevée pour être assimilées par l'ego supérieur. Mais rien n'est pardonné pour autant. Hein. Ce n'est pas parce qu'il ne purge pas sa peine dans le Kamaloka qu'il ne la purgera pas. Toutes ses pensées erronées et toutes ses actions erronées, il les endurera dans ses prochaines incarnations grâce à la loi de karma. Alors, donc, lorsque cette séparation s'est faite, donc quand l'ego s'est libéré de son fardeau, eh bien, la coque astrale, donc, qui est composée du corps astral et puis des désirs et des passions inférieures, terrestres, de l'homme décédé, cette coque reste, elle, dans le monde astral, où elle va se désagréger dans un temps plus long que la décomposition, beaucoup plus long que la décomposition du corps physique. Hein. Mais cette durée va dépendre en fait, eh bien, des désirs égoïstes et des passions de l'être qui est décédé. Plus il aura de désirs égoïstes, plus ce sera long à se désagréger. Mais il faut savoir surtout que cette coque astrale est totalement vide de toute conscience humaine, donc vide de toute intelligence. En fait, elle n'a plus du tout de principe pensant, le principe pensant qui l'animait, c'est-à-dire le mental supérieur, et elle n'a plus non plus le cerveau physique pour opérer. Elle est absolument incapable de penser même au niveau inférieur, le plus bas. C'est impossible, elle ne pense pas. Mais par contre, elle conserve comme une bande magnétique, eh bien, toutes les informations qui concernent le défunt. Alors, d'un côté, c'est une non-entité, c'est-à-dire du point de vue du pouvoir de penser et de raisonner, puisqu'elle ne l'a absolument plus. Mais d'un autre point de vue, c'est une entité parce qu'elle conserve toutes ses mémoires. Et cette entité peut être attirée magnétiquement et inconsciemment vers un médium. À ce moment-là, cette coque est un peu ravivée, réanimée pendant un certain temps, et elle va vivre, on pourrait dire, par procuration à travers le médium. Et à ce moment-là, eh bien, le médium va donner la parfaite illusion d'être relié à l'esprit du décédé. Mais ce n'est qu'une illusion, parce qu'il aura accès justement à toutes les mémoires, donc il aura accès aussi aux habitudes de ce décédé. Il pourra même prendre les intonations de sa voix, savoir comment il écrivait. Enfin, c'est vraiment une illusion parfaite. Et en effet, toutes les informations sont enregistrées donc, dans cette coque astrale. Et d'ailleurs, l'astral, c'est le rôle de l'astral, il enregistre tout, toujours toutes les images et il conserve toutes les informations. La lumière astrale est ainsi faite. Donc, tout ce qui est enregistré, le médium va juste servir de lecteur à cet enregistrement. Et il faut savoir aussi qu'il peut capter aussi des informations dans le mental des personnes qui participent à cette séance. Il peut aussi en avoir qui proviennent de son propre mental. S'il n'est pas soumis à l'influence de forces intelligentes et foncièrement mauvaises, comme par exemple les magiciens noirs, qui vivent, eux, totalement conscients dans cette sphère astrale, sans jamais aller en Devachan. Alors, durant notre vie, nous sommes responsables aussi de tous nos désirs et de nos passions et des effets qu'elles peuvent avoir sur les autres. Comme nous sommes responsables de tout ce que nous faisons, c'est normal. Mais il faut savoir qu'après notre mort, eh bien, nous sommes aussi responsables de ces désirs et passions qui sont dans la coque astrale et qui peuvent avoir aussi une influence sur les autres. Alors nous avons quitté cette vie, donc nous n'avons plus aucun contrôle là-dessus, mais nous en sommes quand même responsables. Il faut voir jusqu'où va donc notre responsabilité. Et le seul moyen pour éviter ça, c'est d'avoir des pensées bonnes et élevées durant notre vie. Alors, quand cette coque est complètement désagrégée, il en restera ensuite juste ce qu'on appelle les scandas qui vont s'attacher de nouveau à la personnalité quand celle-ci renaîtra. Quand elle reviendra sur Terre. Pour être plus précis, en fait, ce sont les effets karmiques de ces scandas qui vont être un peu en veille, en attente, et qui vont se réanimer, se raviver au moment de la réincarnation et s'attacher de nouveau à la personnalité. Alors pendant ce temps, l'ego supérieur, avec son butin spirituel donc de l'ancienne personnalité, a commencé à fonctionner en Devachan. Alors il s'est revêtu un peu d'un vêtement très très éthéré. On peut dire qu'il se revêt même du reflet de la personnalité. Un vêtement donc très éthéré dont il se dépouillera au moment de sa venue sur Terre. Et c'est un peu, on peut dire, comme l'abeille qui butine de fleur en fleur en recueillant le nectar pour faire son miel et qui laisse le reste de la fleur. Eh bien, l'ego, pareil, va recueillir dans chaque personnalité qu'il incarne le nectar de toutes les qualités spirituelles. Alors, si l'ego n'a pas pu avoir de butin spirituel, la réincarnation va se faire très rapidement. C'est le cas des hommes grossiers, très égoïstes, bestiales. Mais il faut savoir que même l'homme le plus bestial, se réincarnera en homme. Parce que la nature ne fait pas de bond en arrière, ne revient pas en arrière. Une fois un homme, toujours un homme. Alors, si l'ego, comme dans la plupart des cas, a un butin spirituel, il va accéder, donc il va rester dans l'état de Devachan beaucoup plus longtemps. Alors, le Devachan, c'est un mot sanskrit aussi qui veut dire le domaine des dieux. Et là, l'ego va assimiler tout son butin spirituel qu'il a recueilli de l'ancienne personnalité. Et là, l'être va en fait pouvoir faire tout ce à quoi il a aspiré, qu'il n'a pas pu faire durant sa vie. c'est-à-dire il va, bien sûr, toutes les qualités comme le beau, l'amour, la bienveillance, l'amour du juste, du vrai, etc. Tout ce qui s'est toujours en fait manifesté dans son cœur, mais qu'il n'a pas pu réaliser. Alors c'est une période d'intense félicité que ce Devachan, qui est sans l'ombre d'une souffrance, absolument. Pour le mortel ordinaire, eh bien, c'est la béatitude totale, le Devachan. Et c'est un cycle où l'être est entouré en fait de toutes les personnes qu'il a aimées sur Terre en les idéalisant. Ils sont exactement comme il aurait aimé qu'elles soient. Et il fait toutes les choses auxquelles il a aspiré, qu'il n'a pas pu faire sur Terre. Donc par exemple, la mère est entourée de ses enfants qu'elle adore et ils sont exactement comme elle aurait voulu qu'ils soient. Le musicien, par exemple, va trouver des harmonies absolument fantastiques, sublimes, comme il aurait voulu les trouver de son vivant. Voilà, etc. Tout est parfait. Et c'est l'oubli absolu de toutes les souffrances qui ont pu être endurées sur la Terre. C'est même l'oubli que la souffrance puisse exister. Et donc, cette béatitude eh bien, dure de longs siècles et c'est aussi la récompense eh bien, des souffrances qu'on a subies pendant qu'on était sur la Terre. Alors, l'état des Vakaniks est quand même un rêve. Mais pour l'entité qu'il vit, eh bien, c'est aussi réel que notre monde peut nous paraître réel à nous. Et en plus, il n'y a pas la notion du temps telle que nous la connaissons. En Devachan, c'est toujours le présent. C'est un éternel présent. Et l'impossibilité d'échapper à ce Devachan, eh bien, elle provient de notre ignorance de nos réels pouvoirs. Et de cette ignorance, eh bien, vient l'illusion. Et donc, même si c'est l'ignorance qui provoque ce Devachan, il faut savoir que c'est quand même un processus absolument nécessaire, reposant, bienfaisant, qui est vraiment ressourçant, c'est très important. Et si l'homme reprenait tout de suite, après sa mort, un corps, son âme serait épuisée et puis il ne pourrait peut-être pas... Il serait peut-être privé de l'opportunité de continuer son développement spirituel. Donc c'est un bienfait, ce Devachan. Par contre, ceux qui ont levé le voile de Maya, c'est-à-dire le voile de l'illusion, c'est le cas des maîtres de sagesse, des grands initiés, etc., ceux-là n'ont pas de Devachan, ils n'en ont pas besoin. Et ils conservent déjà leur pleine conscience même pendant la mort, et ils réalisent aussi toutes leurs aspirations pendant la vie. Ils n'ont pas besoin de Devachan. Maintenant, la durée du Devachan, on en a un peu parlé, dépend du degré de spiritualité, donc de l'être, aussi du mérite et du démérite de son ancienne incarnation. Mais un homme excessivement matérialiste, donc, se réincarnera très vite. Alors qu'un homme qui était très spirituel, qui avait de fortes aspirations spirituelles, pourra rester même des millénaires en Devachan. Mais la moyenne de durée du Devachan est de 10 à 15 siècles. Mais par exemple, deux enfants nés le même jour, un aura pu avoir un Devachan de 300 ans et l'autre de 3000. Donc c'est vraiment très différent pour chaque être. Alors, pour le matérialiste endurci, lui, qui a donc toujours nié l'existence d'une continuation de la vie après la mort, et qui a toujours nié qu'il y ait une âme, l'existence d'une âme, eh bien celui-là sera exaucé. parce que il sera incapable de voir la continuation de l'existence après sa mort. Et parce que tout ça, pourquoi ? Parce que sa faculté spirituelle a été atrophiée durant sa vie et elle ne pourra pas se développer après la mort. Donc il va rester aveugle de tout ça. Et son devachā, eh bien, peut être comparé un peu à un coma profond. Donc c'est dommage pour lui. En fait, tout dépend des croyances pendant l'existence. Karma agit tout le temps. En fait, on va moissonner dans notre vie et après la mort ce que nous avons semé pendant notre vie sur Terre. Alors, quand les forces qui maintiennent l'être en devachan sont épuisées, eh bien, l'être est attiré de nouveau à la réincarnation. Et la loi de karma agit aussi en devachan parce que c'est la force de karma qui va tirer l'être de son devachan et le ramener à l'incarnation. Et en d'autres mots, eh bien, c'est la force des pensées et des aspirations spirituelles que l'être a eues durant sa vie qui le maintient en devachan et qui l'empêche de sortir du devachan, tant que ses forces ne sont pas épuisées. Alors, en devachan, l'entité passe par la jeunesse, la maturité et la vieillesse. C'est-à-dire qu'au début, il va être entouré de ses proches, ça va être vraiment très réel, il est entouré de tous ceux qu'il aime. Après, ça va être de moins en moins objectif. Et ensuite, à la fin, ça va se terminer sur une méditation sur les grands idéaux. Et ensuite, eh bien, ce sera le retour sur Terre. Et ce retour va donc se faire lorsque la force de ses aspirations s'est épuisée et que la force magnétique de son karma a pris le dessus et va l'attirer sur Terre. Mais il faut quand même noter que les maîtres de sagesse gardent un œil sur certaines entités en devachan pour pouvoir les réveiller plus rapidement afin qu'ils reviennent pour aider l'humanité. Donc ce sont déjà des personnes qui ont fait un certain chemin. Et en aucun cas, eh bien, les hommes ne peuvent communiquer avec les esprits des décédés. Et les décédés sont également ignorants de ce qui se passe sur Terre. Et heureusement pour eux, parce qu'ils ne voient pas la souffrance des gens qu'ils aiment sur Terre. Par exemple, une mère ne verra pas son enfant tomber peut-être dans l'alcoolisme ou autre chose qui puisse lui apporter de la souffrance. Non. Et par contre, il existe deux exceptions dans cette communication avec l'esprit des décédés. La première, ça concerne juste les premiers jours qui suivent la mort de quelqu'un. Si cette personne, mais c'est vraiment très très exceptionnel, mais si cette personne avait l'intensité de son désir de faire quelque chose, d'accomplir quelque chose, ce désir peut maintenir sa conscience éveillée et à ce moment-là, ce sera vraiment l'esprit du décédé qui va communiquer. Et le deuxième cas, c'est le cas des Nirmanakaya. C'est-à-dire, ce sont les êtres qui, par compassion pour les hommes, ont refusé d'entrer en nirvana, qu'ils y avaient droit de par leur éveil, mais pour aider l'humanité souffrante. Alors les Nirmanakaya n'ont pas de corps terrestre, mais ils restent dans la sphère terrestre et ils peuvent effectivement avoir des communications avec certains êtres élus, certainement pas avec le commun avec les médiums ordinaires, disons. Et il faut savoir aussi que nous sommes plus proches de nos disparus maintenant que lorsqu'ils étaient en vie, et parce que ça vient de l'amour profond en fait, et karma d'ailleurs amènera tôt ou tard, des gens qui s'aiment vraiment, eh bien, à se réincarner dans le même, dans la même sphère familiale, encore une fois. Et chaque nuit également, eh bien, quand nous sommes dans le sommeil profond de Sushumti, nous allons dans cette sphère céleste et nous sommes très proches de nos disparus, même si nous n'en ramenons aucun souvenir. Et de plus, cet amour pur et profond, eh bien, peut amener un ego qui est en Devachana à exercer une influence bienfaisante sur les gens qu'il a aimés sur Terre. Par exemple, l'ego d'une mère en Devachana qui a laissé ses enfants vivants, eh bien, va avoir une influence sur eux, que ce soit du point de vue moral et même matériel. Elle va redonner son amour à ses enfants, ça passera par les rêves et ce sera une aide, une protection vraiment et un secours pour eux réellement, l'amour de cette mère en Devachana. Parce que l'amour, c'est un bouclier puissant et qui est au-delà de l'espace et du temps. Donc, eh bien, les énergies qui soutenaient cet ego se sont épuisées et il reste uniquement donc c'est la moisson qui s'est maintenant totalement intégrée à l'ego qui se réincarne. Elle en fait intégralement partie. On dit qu'une perle a été ajoutée sur le fil d'or de Sutratma, c'est-à-dire de l'ego. Alors, juste avant la réincarnation, eh bien, l'ego a un moment de liberté totale. Il est comme un foyer de conscience universelle. Et comme il a eu une vision panoramique au moment de la mort, eh bien, il a une vision prospective quand il s'éveille du Devachana, juste avant la naissance, une vision prospective de la vie qui l'attend. Et il se rend compte aussi des causes qui l'ont amené en Devachana et des causes qui le ramènent à la vie. Il voit aussi le futur dans ses grandes lignes, parce que bien sûr, nous avons le libre arbitre et nous pouvons changer les choses si nous le voulons bien. Et il comprend bien sûr la justice de ce qu'il attend en voyant que tout est le résultat de ses vies passées. Donc, il se charge de sa croix et un nouvel enfant est né. Mais il semble aussi que bien avant, eh bien, il y ait une certaine connexion qui se soit établie entre cet ego et la future mère. Alors, n'oublions pas que cet être tout neuf est une âme qui a déjà vécu. Alors, son corps est neuf, le cerveau est neuf, le corps astral est neuf. À part les exceptions d'enfants qui sont morts en bas âge, c'est-à-dire avant d'être responsables de leur karma, normalement c'est avant 7 ans, et qui, eux, se réincarnent très rapidement et avec le même corps astral, et souvent même avec la mémoire de leur incarnation précédente. D'ailleurs, le docteur Ian Stevenson a recensé plusieurs cas de ces enfants dans son beau livre qui s'appelle 20 cas suggérant la réincarnation. Donc l'enfant est né, le souvenir de ses vies passées s'est effacé parce que cette mémoire reste dans l'ego permanent, dans la partie permanente de l'ego. Et maintenant, l'être, bien sûr, ne tombe pas dans n'importe quelle famille au hasard. Grâce à son karma passé, il va être attiré magnétiquement vers une famille avec qui il a des affinités et dans laquelle son karma arrivé à maturité va pouvoir s'exercer le mieux. Donc toutes les chances sont mises de son côté pour qu'il puisse continuer son évolution. Ainsi l'ego qui se perfectionne donc graduellement et lentement d'incarnation en incarnation, eh bien, suit finalement le chemin qui va l'amener à sa dernière transformation, c'est-à-dire celle où il deviendra consciemment un être divin. Voilà.